Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Chantal Doré, qui a le grand plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du balado Inclusion Inc. Et on a eu l'occasion de mettre un peu la table sur le sujet dans la première saison. Et j'avais envie, pour lancer cette deuxième saison, d'être avec une personne qui va être en mesure, premièrement, de nous raconter un petit peu plus sur différentes perspectives, comment ça a pu évoluer l'EDI au fil du temps, mais également voir comment cela s'incarne dans différents milieux. Donc, on parle d'Inclusion Inc., donc oui, les entreprises, mais l'EDI est présent dans les institutions publiques, dans les organismes à but lucratif, dans les entreprises d'économie sociale. Et je nous ai déniché l'invité parfait pour parler de toute cette diversité dans la diversité. Il s'appelle Souleymane Guissé. Il est médiateur interculturel, formateur et conférencier et spécialiste en EDI, donc équité, diversité et inclusion. Bonjour Souleymane.
Bonjour Chantal, content d'être ici. Merci encore de l'invitation.
Bien, vous aviez tellement une feuille de route extraordinaire. J'ai découvert là, que vous avez eu dans un parcours de, bien, vous avez un parcours de consultant très riche, mais vous avez aussi été président du Conseil interculturel de Montréal pour la ville de Montréal.
Oui, effectivement, j'ai été président du Conseil interculturel de la ville de Montréal de 2019 à 2022. Et dans mon parcours, cette étape-là est vraiment déterminante parce que dans cette étape-là, j'ai vécu de l'intérieur le retour en force de l'EDI. Parce que tout s'est cristallisé quand même à la ville de Montréal avec cette fameuse consultation publique sur le racisme systémique de 2019 à 2020 qui a abouti avec le rapport de l'ECPM et la création d'un poste de commissaire donc à lutte aux discriminations systémiques. Donc on peut dire que j'ai été au cœur du réacteur justement et c'est là vraiment en tant que médiateur interculturel de formation, j'ai fait un travail de rétrospection, en tout cas un travail d'adaptation de ma pratique pour intégrer finalement l'EDI qui, au final, c'est vraiment les enjeux de diversité qui ont évolué, effectivement, donc qui ont pris la forme de l'EDI, parce que plusieurs organisations faisaient déjà de l'EDI sans le nommer. Maintenant, avec cette consultation publique sur le racisme systémique, avec ce qu'on a noté, George Echaquan ou encore George Floyd, tout ça a contribué à remettre, en fait, l'EDI sur le devant de la scène des organisations, justement, québécoises, qu'elles soient, justement, Inc. ou OBNL ou de l'économie sociale où justement j'exerce comme chargé de projet à la formation, responsable des dossiers EDI au comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale, justement de l'action communautaire.
Vous dites remettre sur la table. Donc, il y a un mot qui m'intéresse là-dedans, c'est le « re-avant ». Donc, c'était sur la table, mais c'est disparu, ou comme vous le dites, on le vivait, mais sans le nommer de cette manière-là?
Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. L'EDI existe depuis, je le rappelle toujours, depuis la guerre de sécession américaine en 1865. C'est les premières initiatives de l'EDI avec la Reconstruction Act aux États-Unis. Mais très tôt, l'EDI a été tué dans l'œuf parce que ça ne faisait pas l'affaire de conservateurs ou des gens du Sud qui, justement, n'étaient pas pour l'abolition de l'esclavage. Donc l'EDI, dès le début, va être tué dans l'œuf. Ça va prendre pratiquement un siècle, le mouvement des droits civiques, pour que l'EDI reviennent sur le devant de la scène avec donc le mouvement des droits civiques, avec les Martin Luther King. Mais qu'est-ce qui va donner corps à l'EDI? C'est le mouvement féministe. Donc, on est dans la deuxième vague du mouvement féministe des années 60. Donc, on va contribuer vraiment à, entre guillemets, institutionnaliser à l'EDI et à permettre donc à passer des lois, en fait, en faveur de l'inclusion, disons, mais aussi à abroger des lois discriminatoires au Canada. La loi sur l'immigration qui était discriminatoire en 1867 va être abrogée. Et puis, donc, le l'EDI va continuer dans les années 80, le mouvement Black Panther aux États-Unis, qui incarnait vraiment cette lutte pour la libération des Noirs, ben va être finalement, va subir en fait l'assaut du FBI. Donc là, on revoit que l'EDI, à chaque fois que l'EDI avance, il y a une remise en question. Dans les années 80, 90, avec finalement la chute du mur de Berlin, avec la chute du mur de Berlin, la mondialisation, ben en fait, l'EDI prend la forme de l'interculturel. Et à ce propos, le Québec est quand même une école de l'interculturel. L'interculturel est institut, même si ce n'est pas institutionnalisé, mais est pratiqué, et l'interculturel québécois devient une école, surtout avec le mouvement communautaire. Et là, on peut dire qu'on est à la quatrième étape, en fait, du mouvement EDI, et c'est revenu, en fait, du fait de George Floyd et du mouvement MeToo. Donc, encore une fois, quand on parle d'EDI, il y aura toujours la race, en fait, l'ethnicité, avec donc souvent les personnes racisées, et donc tout ce qui est lié au féminisme. Donc, et donc, l'EDI revient sur le devant de la scène actuellement avec ce qu'on voit. Et donc, les autres diversités, ce qu'on peut appeler des néodiversités, on parle de personnes neurodivergentes ou de la diversité non apparente. Parce que souvent, on parle de diversité apparente et non apparente, sont là encore. Donc, l'EDI avance et à chaque étape, il y a des gains et à chaque étape aussi, il y a des néodiversités qui émergent.
Donc, Souleymane, si je vous comprends bien, vous avez dit que la montée du féminisme est venue faire un tournant parce que là, sans rentrer tout de suite maintenant dans tous les volets d'intersectionnalité, il reste que là, on a pris l'interculturel. On parlait de l'esclavagisme, le droit des Noirs, on est allé vers l'interculturel. Et là, avec le féminisme, on ouvrait à d'autres diversités.
Oui, on ouvrait à d'autres diversités, notamment les femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de discrimination vis-à-vis des femmes quand on parle d'équité salariale. Mm-hmm. Donc ça arrive dans les années 60. Là, en ce moment aussi, en parlant de diversité, le mouvement LGBTQ+ est un des mouvements les plus innovants, les plus engagés sur cette question-là. Et comme je disais aussi, il y a d'autres formes de diversité dont on parle, donc la neurodiversité. Oui. Donc c'est toujours l'évolution de l'idée. Donc, il y a ce que j'appelle le cercle de l'EDI, toujours donc un cercle de l'EDI. Et à chaque étape de ce cercle-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une nouvelle diversité, en tout cas des néo-diversités qui émergent. Donc, l'EDI ne vient jamais pour rien. À chaque nouvelle étape de l'EDI, ben, il y a des avancées, il y a des gains. Des fois, ce qu'on note aussi, c'est une remise en question de l'EDI. Ce qu'on a noté récemment avec certaines organisations qui sont allées jusqu'à retirer leur programme et politique d'EDI.
Oui, Molson, entre autres.
Oui, Molson.
Expliquez-nous d'où c'est venu cette remise en question.
Sur quel point? Ben, en fait, Molson, je pense, si je me souviens bien, donc ils avaient adhéré à un programme, en tout cas, qui mettait ou bien qui évaluait les organisations selon leur évolution sur les questions LGBTQ+, et puis donc subitement ils ont décidé de se retirer, et puis on parlait du fait d'influenceurs conservateurs qui critiquaient l'EDI, mais ça moi je suis pas surpris de ça. Il y a 3 ans, j'avais déjà prédit que l'EDI va être remise en question. Comme je disais, c'est que l'EDI évolue par étapes, et à chaque étape il y a une remise en question. Mais ce qui est positif, c'est qu'il faut noter, dans cette remise en question là, il y a des avancées, il y a des gains. Si on prend l'étape actuelle où on est, ben on parle de néo-diversité, comme j'ai dit, il y a la neurodiversité, il y a aussi la prise de conscience de tous ces enjeux-là. Maintenant, on parle beaucoup des biais cognitifs inconscients. Oui. Donc, il y a des gains tant en termes d'engagement, tant en termes de loi. Par exemple, là, avec le retour en force de l'EDI, il n'y a pas pratiquement une nouvelle loi qui a été passée au Canada, parce que le législatif existait déjà, à part la loi sur l'accessibilité universelle, sinon au niveau fédéral, sinon il n'y a rien d'autre qui est passé, parce qu'il y a déjà au Québec la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, au fédéral il y a une loi pareille. Donc c'était plus au niveau des pratiques, de l'engagement et au niveau de quelque chose de structurant, et à cette étape-là, c'est ce qu'on a noté et c'est ce qui est positif. Donc certainement avec la remise en question, de même avec ce qu'on note par exemple du côté de Molson, c'est pas généralisé, les organisations restent quand même engagées sur l'EDI. Pourquoi? Parce que l'EDI est une question morale, émotionnelle et politique, mais elle s'est surtout imposée pour des raisons économiques, surtout du côté de la finance.
Ou des raisons économiques, dans
des raisons économiques. Par exemple, on dit que les organisations en fait diverses, où l'équipe de travail est hétérogène, mais en fait on note un taux de productivité de plus de 30%. On note aussi en termes de marque employeur, une organisation qui...
Donc on a vu que c'était rentable d'aller d'opter pour des pratiques de DI.
Ouais, comme on dit en anglais, diversity is good for business. Donc c'est ça qu'on dit. Désolé de l'anglais, mais en fait, les DI, c'est pourquoi c'est populaire du côté du Inc. En fait, mm-hmm. du privé. Pourquoi? Parce qu'ils ont flairé la chose. Ils ont vu, c'est du retour sur investissement. Une banque qui reflète la diversité de ses clients, mais attire plus de clients et ça fait plus d'argent. Mais aussi, quand on remonte à l'histoire de l'EDI, et le milieu financier s'est engagé en EDI pour éviter les procès. Parce que dans les années 60, Wall Street a payé beaucoup. Et donc, ça,
on monte les revenus, puis on essaie de baisser les dépenses grâce à ce levier.
Et puis l'image, au côté de l'image, côté marketing, c'est gagnant.
On a juste à aller, nous, on est près ici, notre studio est près du Village Gay, puis à peu près toutes les succursales bancaires ont le drapeau et tout.
Justement, donc, et puis là, ça va peut-être nous permettre de faire la transition avec l'économie sociale.
Absolument,
qui est très particulier.
C'est exactement
ça. Désolé, c'est pas moi qui anime, c'est vous qui animez.
Mais voyez, on est sur la même longueur d'onde parce que vous nous avez fait le plaisir d'écouter deux des épisodes l'année dernière, Hydro-Québec et la Caisse de dépôt de placement du Québec. Donc, on est plus dans des institutions et j'avais envie d'entendre aussi votre vision des OBNL et des entreprises d'économie sociale parce que pour ces organisations-là, ce n'est pas une question législative qui fait qu'on s'y intéresse. C'est une question de valeurs fondamentales et de vision de la vie.
Effectivement, Chantal, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et puis, je suis très content de faire de l'EDI dans le domaine de l'économie sociale et des OBNL. Effectivement, donc, au Québec, il y a ce qu'on appelle la loi sur l'accès à l'égalité en emploi qui oblige certaines institutions, justement, à avoir un niveau de représentativité des groupes cibles. Donc, il y en a les femmes, les personnes racisées, les minorités ethniques, les minorités ethniques, les Premières Nations, mais aussi les personnes handicapées. Donc, c'est les cinq groupes. Et donc, la loi n'est pas parfaite parce qu'elle n'inclut pas les groupes LGBTQ+, qui sont dans l'angle mort, alors que c'est un groupe qui subit des discriminations. Donc, bref, cette loi-là oblige ces organisations-là, en tout cas, pour ces organisations-là, à faire des politiques, des pratiques de diversité. En économie sociale, on a des petites organisations qui ont moins de 100 employés en moyenne, 10, ou bien comme des organismes communautaires, ils ne sont pas assujettis à ces lois-là. Pourtant, avec le retour en force de l'EDI il y a 3 ou 4 ans, ces organisations-là, par exemple, ont tapé à la porte de là où je travaille, au comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale, pour nous dire « aidez-nous, on veut être inclusif, on veut être divers ». Moi, en tant que chargé de projet, quand je regarde ces organisations-là, je dis déjà, vous êtes inclusif. Et qu'est-ce qu'on note? En fait, on note que les valeurs de l'EDI, la valeur de justice sociale, mais c'est des valeurs qu'incarnent.
Déjà portées
par ces organisations-là. Mais la seule chose, c'est que des fois, ils ne réalisent même pas qu'elles font de l'EDI. Donc, dans les formations que je donne, je les amène à identifier ce qu'on appelle des dimensions et des leviers d'inclusion. Une dimension, une levier d'inclusion, tel que je le comprends, c'est la zone névralgique où il faut agir pour favoriser l'inclusion. Et souvent, ces organisations-là, elles vont automatiquement penser à la gestion des ressources humaines et me disent « Oui, mais moi, je ne fais pas beaucoup de recrutement. Comment voulez-vous que je fasse de l'EDI ?» Je dis « Non, l'EDI, ce n'est pas que de la gestion des ressources humaines. Vous pouvez penser à votre gouvernance, à vos membres. Vous pouvez penser à l'accessibilité. Vous pouvez penser à vos partenariats. Mm-hmm. » Et là, et j'ai dit...
Donc, elle est plus sur l'externe.
Sur l'externe, ça peut être aussi sur l'interne par rapport aux membres. Oui. Aux membres, à la participation citoyenne, dépendamment de la mission de l'organisation. Mm-hmm. Et là, elles prennent conscience que finalement, elles font déjà de l'EDI, mais qu'elles ont du mal à le documenter. Et c'est ça qui est intéressant avec ces organisations-là. Je disais tantôt qu'il y a une remise en question de l'EDI dans certains secteurs. En économie sociale, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette remise en question-là pour la seule et simple raison que ces organisations-là sont sincères. Elles ne le font pas pour le marketing. Elles le font finalement parce que c'est des valeurs. Moi, je vois des gestionnaires, des administrateurs face à l'EDI qui ont juste envie d'y aller parce que ça rejoint finalement leurs valeurs. Et quand on parle d'économie sociale, l'origine de l'économie sociale, à la base, c'était pour inclure justement
les francophones. Ben oui, c'est dans la définition
même. Les francophones dans l'économie canadienne parce que les francophones étaient finalement à la marge de cette économie-là avec la création des jardins, par exemple. Mm-hmm. Donc, en fait, l'économie sociale ou le milieu communautaire aussi, c'est intrinsèquement lié à l'EDI. C'est juste dommage, par exemple, qu'on le réalise que maintenant. Donc, c'est des organisations naturellement inclusive. Maintenant, le défi de ces organisations-là, il y a ce qu'on a identifié, parce qu'on a lancé un laboratoire d'inclusion en économie sociale avec l'Institut de recherche sur les pratiques interculturelles et inclusives, IRIPI, du Collège de Maisonneuve. Et l'objectif de ce laboratoire d'inclusion-là, on est vraiment dans l'innovation sociale, dans ce qu'on appelle en anglais les Living Labs. Et l'idée, c'était de documenter les barrières à l'inclusion. Et on a mis sur l'axe ethnoculturel, mais c'était un prétexte pour élargir sur les autres types de diversité, mais aussi de produire des outils adaptés. Parce qu'est-ce qu'on a remarqué avec l'EDI, c'est qu'en économie sociale, les outils qui existaient, c'est quand on parle par exemple d'Hydro-Québec ou de la Caisse de dépôt du Québec, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des outils sophistiqués qui sont faits pour des organisations avec plus de 500, 700
employés. Oui, puis c'est basé beaucoup sur les questionnaires, la représentativité, les histoires de quotas.
Alors que dans l'économie sociale, on est ailleurs, ou dans les OBNL, on est dans le qualitatif, on est sur d'autres éléments. Donc là, l'objectif de ce laboratoire-là aussi était non seulement de documenter les barrières, et quand on a documenté les barrières, on a identifié deux choses. Donc, on a identifié ce qu'on appelle les biais de valeur en économie sociale et les biais d'angle mort. Je pourrais expliquer plus tard.
Excellent. Ça tombe bien. On va faire une courte pause, Souleymane Guissé.
Merci beaucoup.
Retour en studio avec notre invité Souleymane Guissé. Il est médiateur interculturel, formateur, conférencier et spécialiste en EDI. Il y a eu des événements à l'automne 2024 qui ont mis un peu l'EDI sur la... Malheureusement, c'est un sujet qui a fait beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. C'est la situation dans l'école à Bedford. Et j'ai eu l'occasion d'entendre une entrevue de Rachida Aziz à l'émission de Patrick Masbourian où elle disait que c'était un peu une question d'EDI qui avait mal tourné cette histoire-là. J'étais curieuse d'avoir votre avis, Souleymane, sur cette question-là. Donc, on sait qu'il y a eu 11 enseignants maghrébins qui, finalement, on a un peu montré la porte, mais les gens ne savent pas que les premiers lanceurs d'alerte étaient aussi des maghrébins. Donc, ça aurait été facile aussi de pointer une façon d'éduquer alors qu'il y avait des gens de la même communauté qui n'étaient pas d'accord avec le programme culturel qui était amené. Donc, là, on en est question religieuse, mais c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, c'est beaucoup plus large. Et ce qu'on apprend sur ces questions-là, c'est que l'EDI, par rapport à ces enjeux-là, comme on dit toujours, la diversité est une richesse, mais aussi un défi.
Il
y a des défis. Et ce qu'on apprend dans ces questions-là, c'est qu'il ne faut jamais généraliser ni stigmatiser une communauté. C'est ce qu'on dit. Et puis, je suis d'accord avec Mme Adjus. C'est clair que c'est des questions d'EDI qui ont été mal gérées. Et quand je pense, par exemple, on parle beaucoup des gestionnaires, et j'ai écouté certains chroniqueurs parler, le mot qui a attiré mon attention, c'est le mot principe. Là, je fait référence à Gérard Bouchard qui, dans un de ses articles, Qu'est-ce que l'interculturalisme, parlait justement des éléments de préscience ad hoc. Les éléments de préscience ad hoc, c'est ce qu'on peut dire sans théoriser, c'est vraiment dans une organisation ou dans un milieu de travail diversifié, il est de la responsabilité justement des gestionnaires de mettre en place un cadre où il y a des non-négociables. L'égalité homme-femme, on ne saurait la remettre en question pas qu'au Québec, partout. C'est des principes non négociables. L'homophobie, c'est pas quelque chose d'acceptable. Le racisme. Donc, peu importe l'origine des travailleurs, peu importe qu'ils sont, la laïcité aussi, au niveau de laïcité, ça dépend comment on la conçoit, mais la place de la religion, ça doit toujours être encadré. Donc ça, c'est le rôle aussi des gestionnaires de faire preuve de ce qu'on appelle un leadership inclusif. Et dans les principes et les piliers du leadership inclusif, il y a le courage, stratégique. Un courage stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, on porte quelque chose, mais la façon dont on l'amène, c'est pas militant. C'est une façon très professionnelle. Donc voilà, donc au niveau aussi de cette question-là, c'est que on est sur l'EDI, c'est professionnel. Personne ne peut, n'importe qui ne peut s'improviser, en fait, et spécialiste de l'EDI. Donc quand ces questions-là arrivent aussi, il faut avoir ce qu'on appelle un réflexe, ce que j'appelle souvent un réflexe diversité. Le réflexe diversité, c'est que ces questions-là, quand ça arrive, ou ces enjeux-là, il faut que le gestionnaire ait le réflexe de s'outiller. Si elle n'a pas les outils, de faire appel à des professionnels, à des consultants, justement, c'est pas que je fais mon marketing, mais pour les accompagner. Et aussi, en EDI, une des pratiques qu'on conseille, c'est la proactivité. Quand oui. quelque chose, quand on sent qu'il y a quelque chose
qui ne va
pas.
Mais c'est ça, ça a longtemps,
pas.
Ça a longtemps, vous parliez de tuer dans l'œuf, mais ça a longtemps macéré cette situation-là.
C'est ça.
Et ça a eu le temps d'éclater. Et j'ai l'impression aussi qu'en confiant, on a nommé une personne de la même communauté pour tenter de régler ça, mais c'était quoi la vision de se dire entre eux, ils ont la même vision, ils vont se comprendre? Il me semble que c'est complètement le contraire.
Mais non, là, en fait, ce qui revient aussi, c'est que souvent, quand on parle de ces questions-là, le réflexe, justement, des personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas assez formées, c'est de dire, mais il vient de la communauté, il peut faire, cette personne pourra nous aider. Ça, c'est ne rien comprendre en l'EDI. Moi, j'ai des collègues, j'ai des confrères, consoeurs québécois pur laine, mais qui maîtrisent même mieux que moi. Ils ont étudié là-dedans. Ils ont, ces personnes-là ont été formées là-dedans. Donc, quand ils se retrouvent dans des enjeux de diversité, ils sont capables de les gérer. Donc,
l'idée, c'est plus une posture. Qu'il y a des gens que j'ai reçus à l'antenne qui se sont fait demander comment ça se fait que tu es blanc, hétéro, comment tu peux occuper ce poste-là, comme si automatiquement, il fallait que tu sois issu d'une des communautés pour pouvoir occuper ce poste-là. J'entends que c'est plus une posture, une formation, une éducation, une sensibilité.
Une posture, c'est pas pour rien qu'il y a des maîtrises en médiation interculturelle, des maîtrises en EDI. C'est des postures. Et puis souvent, on dit que l'EDI, c'est 25 % de connaissances et 75 % de savoir-être. Mais le savoir-être, il faut l'apprendre. Il faut qu'on soit formé. Par exemple, comment développer un réflexe diversité quand on parle d'humilité narrative, quand on parle de compétences interculturelles.
D'humilité narrative.
L'humilité narrative, c'est un concept que j'ai découvert hier, figurez-vous, parce que j'étais au lancement de notre livre sur l'administration publique des diversités. Et puis donc, il y a une pédiatre qui justement est intervenue en parlant d'humilité narrative. Ça veut dire quoi? En contexte de diversité, quand des enjeux justement d'accommodement ou des enjeux tels qu'on a noté à l'école de Bedford se présentent, c'est-à-dire les gestionnaires en action, les gestionnaires qui sont au cœur de l'action, doivent avoir justement une posture, une attitude réflexive vis-à-vis même de ses valeurs, de sa culture, pour pouvoir justement analyser et puis donc poser un diagnostic à cette situation-là. Mais ça ne s'improvise pas. Il faut être formé en formation continue. Moi, je travaille dans la formation continue, justement. Donc, et puis je suis formateur et je pense et je le note qu'il y a un besoin de formation, d'être outillé. Et puis moi, je dirais aux gestionnaires, quand ils ont affaire à ce type de situation-là, d'être proactif, s'ils n'ont pas les outils d'aller chercher de l'aide.
Oui.
Parce que rien ne sert justement comme dans cette situation-là, de laisser la situation pourrir, parce que quand ça implose, ça fait dégâts et c'est ce qu'on voit. Donc, proactivité et s'outiller. Ça, c'est les deux, c'est ce que j'ai à noter. Des choses comme ça, en fait, vont certainement se reproduire. Dans d'autres cas, je ne veux pas être négatif, mais on peut apprendre de ces questions-là. Parce que moi, ces questions-là, ce que j'ai noté quand même, c'est que même au niveau politique, ils ont quand même, je pense, ils sont rappelés de la crise des accommodements raisonnables. Donc, ils ont pris le temps d'analyser la situation. Et puis donc, même les commentaires, on fait quand même attention de ne pas stigmatiser une communauté. Donc, c'est ce que je disais en EDI sur ces questions-là. Chaque étape, un gain. Donc, il y a un gain. Et le prochain gain, pour moi, pour les gestionnaires, c'est proactivité et s'outiller. Être proactif et s'outiller, c'est la chose à mieux faire et d'avoir cette humilité-là. L'humilité, c'est une des caractéristiques.
L'humilité narrative.
Ouais, mais l'humilité tout court pour un gestionnaire et pour un leader inclusif, c'est de dire justement, j'ai pas tout pour agir. D'ailleurs, la personne que vous avez invitée pour la CDPQ, elle disait, nous, on s'appuie beaucoup sur les employés. Ça, c'est de l'humilité parce que les solutions pour venir de ces personnes-là, comme les solutions peuvent venir aussi de personnes observatrices externes.
Qu'est-ce que vous avez observé des deux émissions que vous avez écoutées? Je vous explique. J'ai réalisé à quel point ça avait été complexe de réussir à avoir des personnes des grandes entreprises. Ça a dû monter à plusieurs échelons, alors que quand on recevait des PME, ils venaient raconter leur histoire et leur posture et leur façon d'envisager plutôt que de passer par des questionnaires de représentativité, des quotas. Il y a l'aspect législatif dont vous parliez, j'imagine.
Bien, justement, en fait, c'est ça. C'est qu'au niveau des grandes structures, c'est des questions sensibles. sensible, hein, très émotionnel. Donc on fait attention parce que on fait attention aux polémiques, à tout ce qu'on, parce que ça peut déraper ça peut déraper de n'importe où. Et puis quand même c'est des institutions, donc il y a cette bureaucratie là qui explique, qui peut expliquer cela. Et on le voit avec les conseillers EDI souvent, qui dans ces organisations là aussi peuvent être frustrés parce que justement ils vont pas avoir carte blanche pour mener les choses. Donc moi je comprends dans ces situations-là, pourquoi on en arrive là à trop de bureaux. Alors que moi, je le disais à ma gestionnaire dernièrement, que moi, je suis très content de le faire ici, parce que justement, j'ai cette liberté-là, cette carte blanche-là pour faire, mais je ne fais pas n'importe quoi non plus, parce que je suis un professionnel formé, et je pense qu'aussi, dans ces questions-là, sur ces sujets-là, on gagnerait en fait à donner plus de liberté et d'autonomie aux conseillers EDI pour qu'ils puissent, parce que j'avais écouté Pasquale ou bien même au niveau, je pense, Madame Brien qui disait, ben, on a droit à l'erreur aussi. Mm-hmm. Oui, des fois on se trompe, l'essentiel c'est d'être de bonne foi. Donc moi je dirais qu'au niveau des grosses organisations, je comprends la bureaucratie, la structure, je comprends qu'il faut faire, on marche sur des œufs, sur des questions très émotionnels, mais laissons un peu, libérons un peu l'énergie créatrice des conseillers, des spécialistes.
Et puis, on est au Québec, on est une terre de PME. C'est quand même là où il y a le plus grand nombre d'emplois, c'est à travers les PME. Donc là, j'entends que s'il y a des gens qui travaillent en PME à l'écoute ou des gestionnaires dans des PME, s'outiller, comme vous le dites, et agir rapidement. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour eux?
Bien, s'outiller, agir rapidement, il y a un concept, en tout cas un mot qu'on aime en économie sociale, la mutualisation. Justement, les PME, souvent, quand on parle d'EDI, ils vont dire, ah, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez de staff en ressources humaines. Mais ce que je leur dis, ben, vous êtes un PME de même secteur, ben, mutualisez, engagez un professionnel, mettez-vous ensemble, et ce professionnel-là, ben, il aura un mandat. C'est un peu ce que je fais en économie sociale. Moi, au-delà de mon organisation à l'interne, j'outille un ensemble d'organisations, et ils viennent vers moi, ces organisations-là, non pas un conseil EDI. Mais quand elles veulent quelque chose, il y a des enjeux, ils vont m'appeler, je donne soit une formation, du coaching et tout. Donc, l'autre, donc, a proactivité soutenir, mais mutualiser aussi les ressources. Ça permet non seulement d'avoir une personne qui a une vue d'ensemble d'un secteur d'activité, ça peut se faire via leur comité sectoriel, ça peut se faire via leur réseau, et ça permet justement de ça permet d'outiller les gestionnaires, mais aussi de les soulager, parce que pour un leader inclusif, c'est quand même ça peut être des fois assez complexe, ces questions-là aussi.
Oui. Souleymane Guissé, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous dirais qu'en conclusion, ce que j'ai envie que la prochaine étape de l'EDI, ça soit qu'on se considère tout simplement des humains avec nos forces, nos faiblesses, et qu'on arrive à être une plus grande tribu, tout le monde ensemble, plutôt que de rester dans ces visions trop segmentées.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de l'invitation, ça fait un plaisir.
Merci beaucoup. Donc, c'était Souleymane Guissé, médiateur interculturel, formateur, conférencier, spécialiste en équité, diversité, inclusion. Merci beaucoup à notre équipe, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous rappelle que les épisodes du balado sont disponibles à canalem.vusezvoix.com et sur l'ensemble des plateformes de balado diffusion. Nous vous préparons de nouveaux épisodes d'Inclusion Inc. Je vous espère à l'écoute. À très bientôt. Merci, au revoir.